À voix nue. Cette semaine, Jules Crétois rencontre Catherine Coquerie-Vidrovitch. Ce soir, de Dakar à Brazzaville, sur des campus bouillonnants.
Catherine Coquerie-Vidrovitch, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes historienne de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de parler de vos premiers voyages sur le continent africain qui relevait un peu du périple et de votre ligne de conduite qui se résumait en gros à « je fais comme j'en ai envie et on verra bien ». Du mi-temps des années 60 et jusqu'en 2010 environ, vous voyagez au moins une fois par an, souvent plus, sur le continent africain. Et là, il ne s'agit plus forcément d'être sur des terrains d'enquête, mais d'enseigner, de participer à la vie des campus dans des pays récemment indépendants. Nous allons parler aujourd'hui de votre drôle de vie d'enseignante. On peut peut-être commencer par une anecdote qui éclairera les auditeurs français sur votre influence. Pendant la préparation de cet entretien, vous m'avez raconté qu'il y a peu, vous étiez en Afrique de l'Ouest.
Oui.
Vous êtes allé sur des campus au Bénin, en Côte d'Ivoire, je crois.
À Dakar, à Abidjan et à Yaoundé. Et à Yaoundé, oui, je vous disais, j'ai été tout à fait surprise parce que je suis allée peu au Cameroun. Je n'ai pas travaillé particulièrement sur le Cameroun. J'ai dû aller trois fois au Cameroun. Et j'ai été accueillie, maintenant il y a énormément d'étudiants sur le campus de Yaoundé, il y a plusieurs universités. J'ai été accueillie comme une héroïne et je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, j'étais celle qui avait écrit leur manuel, disons. Et ils étaient très excités au fait de me voir. Ils étaient très nombreux. Enfin, j'ai parlé devant un amphi où il y avait 1000 étudiants. Et moi, j'étais la première surprise parce que je ne savais pas que j'étais si populaire, si je puis dire, au Cameroun, chez les étudiants. Et c'est parce qu'en fait, j'ai fait des ouvrages de synthèse qui sont effectivement très utilisés dans les études africaines, dans l'enseignement des études africaines.
Ça vous a fait plaisir que des gens très jeune.
Ah, ça me fait énormément plaisir parce que c'est le résultat, c'est l'effet de ce que de mes efforts pendant toute ma carrière d'enseignant, parce que je suis, comme on dit, enseignante chercheuse, donc la recherche pour moi c'est très important, mais l'enseignement aussi. Et j'ai beaucoup aimé enseigner l'histoire africaine et j'ai beaucoup enseigné à des jeunes historiens africains, d'autant que pendant très longtemps, jusqu'aux années 70, finalement, il n'y a eu qu'une seule université francophone en Afrique, c'était l'université de Dakar, qui s'appelle aujourd'hui l'université Cheikhanta Diop, alors que dans des pays comme anglophones, comme le Ghana ou le Nigeria ou l'Afrique du Sud, il y avait beaucoup d'universités à l'indépendance. L'université de Dakar a eu son statut d'université en 1958 et l'indépendance c'est 1960. Et pour étudier au-delà de la licence, en particulier en histoire, qui était mon domaine, les étudiants devaient aller à l'étranger, en particulier en France. Donc ceux qui voulaient devenir de jeunes historiens ne pouvaient pas le faire sur place. Et donc j'ai eu beaucoup d'étudiants africains francophones. D'abord à mon université à Paris 7, parce que nous étions assez spécialisés dans l'histoire des zones, des régions non européennes, et en particulier africaines, en particulier par ma personne, mais pas seulement. Donc des liens se sont établis, et j'ai formé donc au démarrage, si vous voulez, dans les années 70, c'était vraiment un enseignement pour former des jeunes qui en avaient besoin. Et puis au fil des années, un chercheur finalement, ça se forme assez vite, enfin en 5 ans, 6 ans, le temps qu'il arrive au niveau de la thèse et qu'il soutienne la thèse. Et à cette époque-là, en Afrique, et à partir des années 70, une série d'universités dans les différents États indépendants qui ont besoin de personnel. Et ces jeunes trouvaient tout de suite à s'employer et continuaient à se former, d'ailleurs, tout en travaillant. Donc ça a été un cheminement continu. Les premières années, c'était vraiment de l'enseignement. On appelait ça l'enseignement de substitution. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'enseignants africains pour enseigner l'histoire. Donc c'était des étrangers, en particulier les Français. Mais à partir de 70-80, Il y a eu des générations, je dois être maintenant, je ne sais pas, la quatrième ou cinquième génération de jeunes chercheurs africains.
Vous parlez de Dakar. De 1970 à 1990, en gros, vous multipliez les allers-retours, vous voyagez beaucoup, votre renommée grandit. Pour se donner un peu une idée, alors Paris est sur la carte, hein, en 1974, vous allez être une cheville ouvrière, la création d'un laboratoire connaissance du tiers-monde à Paris 7. Dans les années 80, vous allez enseigner à New York. Mais on va rester dans ces deux décennies, 1970-1990, à Dakar. Vous êtes au plus près des étudiants sénégalais et vous participez à la naissance de ce qu'on appelle l'école de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est ?
C'est ce que je vous disais à l'instant. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle le troisième cycle, c'est-à-dire de niveau de recherche et de préparation à la thèse. Il y avait des jeunes chercheurs très compétents. Dakar était aussi le refuge pour un certain nombre d'intellectuels africains qui étaient rejetés par leur pays. C'était le cas de la Guinée de Sékou Touré, qui a eu un régime très dur à la fin de son règne, si je puis dire. Donc il y avait en particulier un jeune historien guinéen qui a soutenu sa thèse à Paris, comme les autres. Je l'ai connu à son jury de thèse. Et on a sympathisé, il était enseignant à Dakar, ils étaient deux ou trois, et il voulait pouvoir former les jeunes chercheurs en histoire à l'université de Dakar. Mais pour ça, il fallait un niveau troisième cycle, et pour ça, il fallait un professeur titulaire. Or, il n'y avait pas encore de professeur titulaire africain, ou excessivement peu. En tous les cas, il n'y en avait pas à Dakar. J'ai d'abord été invité pour faire des cours à la faculté de droit et de sciences économiques. C'était un de mes amis, Samir Amin, qui était un grand économiste marxiste de l'époque.
Égyptien,
mais complètement bilingue et biculturel, qui avait fait créer un cours d'histoire et d'anthropologie économique de l'Afrique en faculté de droit et de sciences économiques, s'apercevant que le programme était exactement le même programme que les Français et que par conséquent, les étudiants n'entendaient jamais parler d'Afrique dans leurs études. C'était quand même pas normal. Donc j'ai fait cours là pendant 3 ans. Et puis là, les jeunes historiens de la fac d'histoire sont venus m'écouter. Ça leur a donné des idées. Ils m'ont proposé de venir dans leur département. Et à ce moment-là, pour créer le troisième cycle, ils étaient très entreprenants, ils m'ont fait habiliter comme directeur extérieur par l'université de Dakar. Donc j'avais la signature. Donc je devais y aller tous les ans pour signer tout le boulot qu'ils faisaient, en réalité. Évidemment, quand j'étais là, 6 semaines par an, je travaillais aussi, j'enseignais, mais enfin disons que c'était vraiment avec eux. C'était plus du tout de la coopération de substitution, c'était de la vraie coopération scientifique et l'enseignement. Et ça a duré entre 1972 et le début des années 2000, quand effectivement les premiers, parce que c'était des réglementations très strictes qui étaient très imitées d'universités françaises pour être professeur en titre, c'est-à-dire pour le droit, pour avoir le droit de diriger et de signer, il fallait être docteur d'État à l'époque. Et donc, moi, j'étais là pour signer et accompagner leur travail. Et les premiers qui ont vraiment soutenu leur thèse, c'est dans les années 1990, leur thèse d'étape, devenir professeur à leur tour dans les années 90. Et on a continué à travailler ensemble parce qu'on avait des programmes communs et à faire beaucoup d'échanges. Donc, les contacts entre mon laboratoire et l'Université de Dakar ont été très étroits pendant une vingtaine d'années, et continuent d'ailleurs.
Alors, du coup, vous accompagnez au final une africanisation des programmes, en même temps que se déroule une africanisation des enseignements, enfin, au sens des enseignants, du corps enseignant. Mais là-bas, quand vous arrivez à Dakar et vous allez vivre cela ailleurs à plusieurs reprises, vous êtes face à des élèves qui peuvent nourrir une certaine défiance. Pour se donner une idée, au début des années 70, quand Georges Pompidou vient en visite au Sénégal, des étudiants incendient une partie de l'Institut culturel français et ils peuvent avoir du mal à vous écouter, vous, française, blanche, non musulmane. Est-ce que vous compreniez cette défiance et est-ce que vous êtes parvenu à gagner leur intérêt ?
Ah bien, oui, c'était un défi. Ça ne me faisait pas peur. Je n'ai jamais peur. Je ne connais pas la peur. Et je pense que je n'ai pas peur parce que si j'avais eu peur, j'aurais eu peur pendant ma clandestinité, pendant mon enfance. J'étais bien entourée, bien protégée, je n'ai jamais eu peur. Alors depuis, je n'ai pas peur. Et c'est très utile. Et effectivement, pendant la phase de sciences économiques, j'avais un amphi de 200 étudiants de deuxième année, des grands gaillards, il n'y avait pas de filles à l'époque, ou très très peu, qui me dépassaient largement de plusieurs têtes. J'étais blanche, je n'étais pas musulmane, j'allais leur parler d'Afrique, et ils étaient très défiants au démarrage. Et j'avais le sentiment le matin, je leur faisais cours tous les matins, 3 heures pendant 6 semaines, je me sentais mettre une cuirasse pour affronter le... Et puis, on s'est bien entendu, en fait. Ils ont vu que je n'étais pas l'affreuse colonialiste contre laquelle ils voulaient combattre. Et finalement, au bout d'une huitaine ou une dizaine de jours, on s'entendait très bien et ça s'est bien passé. Mais c'était parce que, effectivement... je n'étais pas scandalisée par leur attitude que je devais affronter et convaincre qu'ils avaient intérêt à m'écouter.
Il y avait une sorte de voile jetée sur l'histoire de l'Afrique en France et en particulier sur des épisodes peu glorieux, la traite négrière, etc. Mais vous étudiant, par exemple, sénégalais dans les années 70, pour que les auditeurs comprennent, très vite, vous allez donner des cours ailleurs, au Burkina Faso, en Centrafrique, dans tout un tas de pays francophones. Mais donc au Sénégal, par exemple, on pouvait vous entendre parler de la traite négrière, de ses effets sur les sociétés africaines, son rôle dans la naissance du capitalisme et du développement occidental. C'était une histoire que ces élèves sénégalais connaissaient.
Non, justement, ils avaient connu un enseignement extrêmement classique et très peu politisé, aussi bien au lycée, quand ils avaient fait le lycée, ceux qui étaient à l'université étaient passés par le lycée, c'était un enseignement très scolaire, avec très peu de manuels, c'est-à-dire des cours dictés aussi, on leur dictait des cours, donc ils passaient leur vie à écrire ce qu'on leur dictait pour avoir du matériau, et à réciter, c'était leur façon d'apprendre de l'histoire. Donc il fallait faire beaucoup de choses, il fallait... C'était un petit peu la même chose avec les étudiants français, mais pas à ce point. Leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, donner leur avis, à observer, à analyser et à ne pas simplement réciter. Et ça, c'était un travail intéressant. C'est une première chose quand j'enseignais à l'université de Dakar. Vous prenez des notes, mais je ne dicte pas. Donc je parle un peu plus vite que pour la dictée exprès. Et ça marchait. L'enseignement, c'est un petit peu du théâtre quand même. On est un petit peu comédien. Donc, on a le contact ou on l'a pas. J'ai la chance de pouvoir avoir le contact. Mais je suis pas toute seule. Il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont. Et ça aide dans l'enseignement que de pouvoir... dialoguer effectivement avec des étudiants qui étaient souvent très timides d'ailleurs, extrêmement timides et très sages, beaucoup plus sages que les étudiants français d'après 1968, parce qu'ils avaient une soif d'apprendre aussi qui était très 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 importante. Et puis j'ai allé de fil en aiguille puisque j'ai formé donc en France, donc où j'avais vraiment des étudiants à former, beaucoup d'étudiants africains de différents pays. Quand ils retournaient dans leur pays, ça s'est passé souvent comme ça. Ils avaient envie de m'inviter pour me remercier d'une certaine façon. Donc je suis allée enseigner, mais en des périodes courtes, 3 semaines ou 6 semaines maximum. Quand même, j'enseignais à l'université Paris 7, je ne pouvais pas m'absenter plus de 6 semaines dans une année, dans pratiquement toutes les universités francophones, ce qui m'a permis d'avoir des contacts avec beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de pays différents, et de mesurer toutes les différences entre ces différentes cultures aussi.
Alors c'est ça, Catherine Kokri-Vidrovitch, votre vie d'enseignante, elle fourmille d'anecdotes, et pour cause, parce qu'elle vient, comme le reste de votre vie, se marier à la grande histoire. Alors, on en a parlé, Catherine Kokri-Vidrovitch, vous n'avez jamais été militante forcenée, mais vous avez toujours eu des valeurs de gauche, vous n'avez jamais eu de complexe à piocher dans un répertoire marxiste, et votre vie d'enseignante, elle vous emmène aussi dans des pays où vous assistez à des expériences marxistes-léninistes, au Congo, au Bénin, au Mozambique. Vous rencontrez même certains dirigeants ou militants de premier plan. Vous avez une analyse d'ailleurs à leur sujet. Pour vous, c'était les gens qui animaient ces mouvements révolutionnaires étaient des militants sincères, mais formés qui en France, qui en URSS. ils avaient peut-être un petit peu perdu le contact avec les sociétés qui prétendaient réformer. Et certains d'entre eux, je crois que c'est le cas du dirigeant congolais Marien Ngouabi, vont même vous demander, à vous qui étiez réputé marxiste, dans les années 70, ils vont vous demander, certains d'entre eux, de leur donner des leçons, en fait, sur le socialisme réel.
C'était très étonnant. Ça m'est arrivé deux fois par l'intermédiaire de Samir Amin, économiste qui était engagé et militant, et qui est invité par le gouvernement marxiste-léniniste révolutionnaire, comme on disait à l'époque, d'une part du Dahomey, qui s'appelait peut-être d'ailleurs Bénin, je ne me souviens plus, et d'autre part, au Congo, par Marien Ngouabi. Donc on était à un séminaire de 5 ou 6 personnes, sociologues, économistes, moi j'étais l'historienne, etc. Et on faisait un séminaire pendant 3 semaines aux dirigeants du pays.
Et, très jeune à l'époque.
Et en somme, il voulait savoir, c'était à la fois touchant, naïf et un peu désespérant. Ils avaient été formés en Occident, évidemment. C'était pas en Afrique qu'ils avaient connu le marxisme, qui était quasiment tabou à l'époque chez eux. Comment tenir un gouvernement révolutionnaire? Alors on va apprendre ça d'intellectuels français de gauche. Nous, intellectuels français de gauche, évidemment, on ne savait pas du tout gouverner. On a beaucoup appris, parce qu'en particulier au Bénin, les différents ministres sont venus nous exposer ce qu'ils faisaient. Je me souviens du ministre de l'Intérieur béninois, qui disait, ben voilà, on veut des conseils de village qui soient vraiment représentatifs. Seulement, en ce moment, dans les villages, il n'y a que les vieux qui commandent et les jeunes ne peuvent rien faire. Alors, on a décidé qu'il y aurait un tiers de vieux, un tiers de jeunes et un tiers de femmes dans les conseils de village. Le résultat, c'est que les vieux, ce sont vraiment des grabataires, ce qui bien que les jeunes, ce sont des vieux un peu moins vieux, et que les femmes font ce que les hommes leur font. Alors, comment faire ? Si vous voulez. Évidemment, c'est pas nous qui pouvions leur apprendre. Mais ça nous a appris énormément de choses, en particulier le fait qu'ils étaient à la fois très, très volontaires, très intelligents souvent, mais aussi d'une très grande naïveté, et qu'ils avaient effectivement perdu le contact avec ce qui se passait réellement dans les villages, sur le sol, etc. C'était un peu des vœux sur la comète. Mais ça m'a permis en particulier de rencontrer le président Marien Ngouabi du Congo, qui était un jeune militaire qui avait peu d'éducation supérieure, je pense que, mais qui voulait apprendre, qui allait à l'université de Brazzaville pour suivre des cours de biologie en particulier, et qui m'a donné cette impression-là d'être très honnête, très simple, très économe. Alors là, j'étais pas du tout un corrompu, pas du tout, mais un peu naïf aussi, enfin même tout à fait naïf par rapport, et le pauvre malheureux s'est fait assassiner parce qu'effectivement ça remuait beaucoup à l'époque. C'était un petit peu toujours le cas. Donc pour moi, c'était des expériences absolument passionnantes, mais je n'étais pas dupe. C'était en même temps les débuts de la découverte pour des jeunes intellectuels tout d'infs en Afrique de vouloir faire quelque chose.
Sur 2-3 décennies, vous allez encadrer des élèves, diriger des thèses. Et forcément, bah, tout cela vous fait rencontrer des personnalités appelées à jouer un rôle important dans la vie publique, intellectuelle, politique de leur pays. On pourrait en citer plein. Abdoulaye Batili, un historien devenu homme politique, oui. Plusieurs fois député et ministre. Au Congo, Henri Lopez. Vous avez aussi dirigé la thèse d'un certain Laurent Gbagbo. Là, lui, pour le coup, était étudiant à Paris, à la fin des années 70. Comment vous réagissez quand un de vos anciens élèves est élu au début des années 2000 président et que la guerre éclate?
Laurent Gbagbo, quand j'ai connu, c'était un étudiant comme un autre. Ils étaient assez nombreux. Il était intelligent, il était vif. Il a fait une thèse de troisième cycle sur les facteurs socio-économiques de l'évolution au Congo entre 1940 et 1960. Je crois que c'était une bonne thèse. Et ce dont je me souviens bien, je me souviens de sa soutenance, parce que en général, le public dans une soutenance est clairsemé et silencieux. Là, la salle était complètement pleine et assez agité, réagissant. Et je m'étais dit à l'époque, oh là là, celui-là, il deviendra un homme politique, c'est pas possible, il est doué pour ça. Je m'étais pas trompé, effectivement, j'ai très peu revu après, mais alors on dit toujours, elle a dirigé Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai, mais enfin, il était jeune à l'époque, et ensuite, je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait ensuite, tout en ayant suivi avec intérêt ce qu'il voulait faire. J'ai aussi dirigé, mais très peu, parce qu'il était aussi très doué et qu'il savait très bien travailler tout seul, Achille Mbembe, qui est un penseur important maintenant. Et je lui disais, mais enfin Achille, vous êtes très intéressé par tout ce qui est politique, pourquoi vous travaillez pas plutôt avec, je sais pas, Jean-François Bayard en Sciences Po, vous êtes toujours avec, pourquoi vous voulez travailler avec moi? Et en fait, il voulait travailler avec moi à cause de ma thèse d'État, parce que j'avais traité, j'étais la première, je m'étais pas rendu compte à l'époque, je m'étais la première à traiter d'histoire économique coloniale de façon un peu différente. Donc ça l'avait frappé, puisqu'il était Camerounais, et donc on est resté toujours liés, on est toujours content de se voir, on se voit très peu, parce qu'il est très occupé, mais on a toujours beaucoup d'amitié.
Oui, là, Achille Mbembe, c'est ça, un autre parcours que Laurent Gbagbo, c'est un intellectuel qui a fini par compter. Oui. Réellement, est-ce que pour une enseignante, c'est aussi un peu ça, son legs, son héritage, voir des anciens élèves s'épanouir et gagner
Moi, je suis toujours très heureuse de voir comment, à quoi ont abouti ceux que j'ai contribué à former à leur début. Mais beaucoup, d'abord quand ils repartaient pour l'Afrique, comme je le disais, ils avaient tout de suite des postes. Quand on est tout jeune, on n'est pas encore très bien formé pour... Donc ils étaient à moitié formés. Et il y en a beaucoup qui ont continué à se former tout seuls très bien, qui sont devenus des gens très très bien, mais c'est pas ma faute. Enfin, c'est parce qu'ils ont su mettre à profit tout leur apprentissage et la suite. Donc pour moi, c'est très gratifiant de rencontrer un certain nombre d'entre eux, et ils sont quand même nombreux.
Toutes ces années d'enseignement, elles vous font, encore une fois, hein, je le répète, mais Catherine Kokrivitch, beaucoup voyagé. Et vous êtes témoin de tout un tas d'épisodes importants de la vie du continent africain au sud du Sahara. La fin du régime de Moussa Traoré au Mali, ça c'est les années 90. Vous avez aussi voyagé en Afrique du Sud, sous l'apartheid, puis après l'apartheid. Toutes ces années, comment on parlait de l'Afrique en France et comment vous perceviez les discours français sur ce continent que vous connaissiez?
Ben, j'ai toujours pensé qu'on était en France extraordinairement mal informé. Et chaque fois que j'allais en Afrique, je découvrais des tas de choses qui ne sont pas dites en France, pas connues. Ça m'a toujours frappé. À quel point l'évolution, si vous voulez, l'évolution culturelle et politique africaine, elle date pas d'hier, elle a commencé depuis longtemps. Et c'est resté très bloqué, je dirais, jusque dans les années 1990. Quand j'allais en Afrique entre les débuts de l'indépendance et 90, d'année en année, je retrouvais un peu la même chose. Les mêmes sociétés, les mêmes travers, etc. Puis à partir de 90, il y a une espèce de... Alors c'était assez étonnant parce que tous les hebdomadaires politiques au moment de la chute du mur de Berlin en France, l'Observateur, Le Point, enfin, ou l'équivalent, je ne me souviens plus comment ils s'appelaient, ils étaient trois. Ils ont eu à 3 semaines d'intervalle, tous les trois, la même réaction en 89-90. L'Afrique, c'est fini. À cause de la chute du mur de Berlin. Et moi, j'étais la seule à dire, mais non, l'Afrique, ça commence. Parce que l'Afrique était un champ stratégique de concurrence terrible entre l'Est et l'Ouest. Donc, les États africains avaient à jouer entre l'Est et l'Ouest, mais ils étaient un champ de concurrence. Et après la chute du mur de Berlin, ce poids-là a un peu disparu, probablement. En tous les cas, les sociétés civiles, ce qu'on appelle les sociétés civiles, ont commencé à apparaître, à s'exprimer, et ça n'est pas un hasard si début 90, c'est-à-dire juste après la chute du mur Berlin, a commencé ce qu'on a appelé les conférences nationales, en particulier dans les pays francophones. Dès février 90, au Bénin, il y a eu une conférence nationale, c'est-à-dire tous les représentants de toutes les parties de la société se réunissent pour essayer de changer les choses. En général, ça n'a pas abouti à grand-chose. c'est vrai. Mais il y a eu un éveil formidable. Et cet éveil ne s'est jamais arrêté. Seulement, ça se joue pas, ça ne se voit pas d'une année sur l'autre. Il faut qu'il y ait des penseurs, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait, enfin, il y a, tout ça fait que d'année en année, à partir des années 90, cette société civile, cette société politique, a pris son essor. Et elle est maintenant très importante et elle est très méconnue en France. Toujours minoritaire dans des États qui, en général, sont des États despotiques, corrompus, etc. Oui, c'est tout à fait vrai. La plupart du temps, ces sociétés n'arrivent pas à se débarrasser de cet héritage très, très lourd. Un certain nombre participent aussi de cet héritage, évidemment. Tout le monde n'a pas envie de le mettre par terre, loin de là. Mais disons, chaque année, vous avez des mouvements plus forts, des expressions plus importantes. Et cette évolution-là, on ne la sent pas du tout en France. Et ce sont des gens qui pensent complètement par eux-mêmes. Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, il y a un hiatus, me semble-t-il, entre l'opinion française d'une façon générale et puis ce qui se passe en Afrique, pour les Africains d'une façon générale et pour les militants en particulier, la politique française est devenue quelque chose de complètement secondaire. C'est plus là que ça se passe dans la mondialisation. Et ça, pour l'héritage colonial français qui reste, ben, l'Afrique, ça reste quand même le champ français. Et donc, on peut faire quelque chose de particulier pour l'Afrique. On peut peut-être faire quelque chose de particulier pour l'Afrique, mais les Africains, d'une façon générale, d'abord, la quasi-totalité sont nés après les indépendances, c'est des pays très jeunes. Les jeunes ne connaissent plus la colonisation et ils vivent dans un monde cosmopolite, international. Et ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, pour eux, c'est beaucoup plus important que ce qui se passe en France. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés à la culture française, qui est quand même la culture littéraire des pays francophones, comme l'anglais et la culture littéraire des pays anglophones, etc. Donc il y a des liens culturels forts, mais sur le plan de l'évolution politique, du point de vue africain, ça dépend des générations, évidemment. Pour les vieilles générations, la France est toujours très importante. Pour les jeunes générations, bon, bah, c'est un pays comme un autre. Et ça, en France, on a beaucoup de mal à le comprendre. On ne le comprend pas, d'ailleurs. On ne le conçoit pas.
Et en tout cas, Catherine Kökri-Vidrovitch, aujourd'hui, après la chute du mur de Berlin, tous ces mouvements dans la société dont vous parlez se jouent encore, comme à votre époque, sur les campus. Catherine Kökri-Vidrovitch, merci beaucoup. Demain, pour le dernier épisode de cette série d'entretiens, nous parlerons avec vous, eh bien, tout simplement de votre œuvre écrite, de vos travaux, de ce qu'ils avaient de précurseur et de la manière surtout dont ils se sont attaqués au racisme. Merci beaucoup et à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jules Crétois avec Catherine Kökri-Vidrovitch. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Yves Lehorse, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.